Aujourd'hui, chronique marketing avec vous, Julien, où nous allons parler du naming dans le contexte du marketing sportif. Le naming, ça consiste en quoi au juste ?
Alors, j'imagine qu'il y a plusieurs de nos auditrices et nos auditeurs qui ont déjà vu que ces dernières années, au fait, que le nom de certaines compétitions sportives, certaines enceintes sportives ou même certains clubs étaient dorénavant fortement liés au nom d'une marque ou d'une entreprise.
Est-ce que vous parlez, par exemple, du fait que certains stades de foot prennent le nom de certaines marques ?
Alors, c'est exactement ça. On a, par exemple, l'Allianz Arena du côté du Bayern Munich, Emirates Stadium pour Arsenal. Et puis, il s'agit en fait de quelques exemples que l'on peut voir aujourd'hui. En fait, ce qu'il faut savoir avec le naming, c'est que c'est une technique de communication qui est un peu sous forme de parrainage, en fait, qui vise à ce qu'une marque ou qu'une entreprise, elle va donner son nom à une enceinte sportive directement, mais potentiellement également à un club ou à une compétition sportive.
Quel peut être le ou les objectifs des marques pour donner leur nom à un événement sportif, à un club ou alors à une enceinte sportive ?
Je dirais qu'il peut y en avoir plusieurs. Il y a des marques qui cherchent à gagner en notoriété ou à développer leur image. Mais je dirais ce qui est intéressant aujourd'hui, comme le relève un article que j'ai consulté sur lefigaro.fr, c'est que certaines marques, elles souhaitent vraiment s'associer à un événement sportif pour pouvoir bénéficier des émotions qui sont générées par l'événement. Dans le même article, Lionel Maltese, qui est spécialiste en marketing sportif, parle d'ailleurs d'idées d'enchanter la marque.
Julien, j'imagine qu'il existe aussi des risques à faire ce type d'opération.
Bien évidemment. D'ailleurs, dans un article, cette fois-ci, qui est intitulé « Le naming, une forme de parrainage original », il y a Éric Delattre et Isabelle Aimé qui parlent de plusieurs risques qui sont toujours inhérents à ce type de communication.
Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-uns ?
Je dirais que je vais vous en présenter deux. Il y a tout d'abord le risque que le public, notamment les spectateurs, ne voient pas d'un bon œil que l'on modifie le nom d'un stade ou d'un événement mythique et qu'on l'attribue à une marque. De plus, si celle-ci n'est pas forcément lié directement à la structure ou à l'événement. Il y a également un risque important pour la marque d'être associée à ce type de structure ou à ce type d'événement. Imaginez une série de défaites. Imaginez une mauvaise conduite de certains joueurs. C'est des exemples qui pourraient par exemple ternir l'image de marque de l'entreprise ou de la marque dans l'esprit du consommateur.
Une dernière question, Julien. Le naming en Suisse, est-ce qu'il est utilisé ?
Oui, il l'est. On trouve le nom de marque accolé à des compétitions sportives, à des noms de clubs ou encore même à des stades. À ce sujet, je me suis livré à une petite observation qui n'a toutefois rien de scientifique, mais j'ai pris 10 clubs de la Raiffeisen Super League, du naming, de foot, et les 12 clubs de la Ligue Nationale de Hockey sur glace, et j'ai regardé quels stades comportaient actuellement du naming.
Et quels sont vos résultats ?
Eh bien, dans le football, il y a seuls 2 stades sur les 10 clubs qui ont une marque comme nom. Par contre, dans le hockey sur glace, la tendance est plus forte puisque 6 clubs sur 12 ont actuellement une enceinte avec un nom de marque.
C'est quand même beaucoup. Merci beaucoup, Julien, pour ces explications.